portez-vous et croyez à la grande. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon André, le frère de Simon, qui jeta un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Et passant de là, un peu plus avant, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et eux étaient dans la nacelle, raccommodant le filet. Et aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à Galilée, ils s'en allèrent avec leur frère.
Merci beaucoup. Alors, je veux revoir une expression dans le verset 17. Alors, c'est l'appel, c'est là, venez après moi. Et maintenant, important, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. À ce moment-là, ils étaient pêcheurs de poissons, et ils les appellent d'entrer dans une école où ils vont être transformés dans des pêcheurs d'hommes. Ce qu'on a dit, ça veut dire leur caractère va aussi changer, et j'ai souligné les deux traits de, on va vite à l'évangile, je vais sur Philippiens chapitre 2, c'est important de lire des versets aussi, Philippiens chapitre 2, pour soutenir cette idée qu'un disciple maintenant, en suivant son maître, ça veut dire le Seigneur Jésus, va avoir une transformation des caractères. Je vous ferai, s'il vous plaît, Philippiens, chapitre 2, verset 58.
Qu'il y ait donc pour vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, lequel est en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à rappeler de prier à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, en fait ressemblance à la ressemblance des hommes, mais étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort.
Merci beaucoup. Alors, ici, dans ce passage, il y a quelques gloires du Seigneur Jésus. Mais on voit, c'est une chose très importante. Et je veux ajouter, j'ai dû le faire dans le PowerPoint, c'est obéissance parfaite pour lui et humilité parfaite. Nous, je veux dire, je commence, j'ai dit moi, peut-être parfois, je suis obéissant, mais je ne suis pas humble. Et d'autres fois, on est humble, mais on n'est pas obéissant. Lui, il a été parfaitement obéissant, parfaitement humble. Et alors, c'est important d'avoir devant nos visages son modèle. Son modèle. Et maintenant, application pratique. On a tous derrière nous des gens plus jeunes. Et nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. Je me rappelle une fois, on était dans la colonie de vacances en Roumanie et on est allé faire une promenade. On descendait une petite colline. Moi, j'étais avec un frère à côté de moi et il y avait deux garçons derrière nous. Ils marchaient là, ils me plaisantaient. Et une fois, j'ai dit, je veux prendre un bois pour m'aider à descendre. Moi, je prends, mon ami prend, et deux minutes après, je ne sais pas pourquoi, je regarde derrière. Les deux garçons, qu'est-ce que vous pensez? Eux aussi, avec la même chose. Alors, il y a dans nos vies des jeunes qui copient nos paroles, nos attitudes. Si nous passons du temps à laisser imprimer le caractère du Seigneur Jésus à nous, ça va influencer d'une manière positive les autres. On ne doit pas oublier, on a des personnes devant nous, et c'est important que nous avons nos parents, les frères et sœurs qui ont été et sont des modèles. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi des modèles pour les gens qui nous suivent. Même si on ne se rend pas, on se rend compte ou pas, ils vont copier, ils vont faire pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Et c'est important de se rappeler. Parenthèse pratique. Je veux continuer, voir quelques versets. Je veux, voilà, le but qu'on voit en Marc, c'est de ressembler, pas rassembler, ressembler au Seigneur en nous efforçant de faire ce qu'il a fait est important. De le faire de la manière dont il l'a fait. Peut-être que je veux aussi ajouter quelque chose. L'obéissance. Ce n'est pas une obéissance rigide et forcée, légaliste. Ce n'est pas obéir pour obéir. Pourquoi on obéit? Et je vois dans les Écritures que les disciples obéissent au maître par amour. C'est très important. Quand quelqu'un me demande pourquoi tu obéis, le modèle, pourquoi tu obéis l'enseignement du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une obéissance rigide, légaliste. Je le fais avec affection. Pourquoi j'obéis mon maître? Parce que je sais que mon maître est allé à la croix pour moi. Il m'a tant aimé qu'il a donné tout pour moi. Et maintenant, mon obéissance doit être une réponse dans mes affections pour lui. Sinon, cette obéissance peut devenir quelque chose, peut devenir fatigante. Si je n'ai pas la motivation correcte, ça veut dire que j'obéis mon maître parce que je l'aime. Je veux faire ce qu'il a fait parce que je l'aime. Et je veux voir un peu avec votre aide. On va vite, 1er chapitre de Jean. Non, Philippiens, on est en Philippiens 2. Quelqu'un, s'il vous plaît, verset 29 et 30. Parce qu'il y a ici un disciple qui suit l'exemple de son maître.
Recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie et honorez de tes hommes. Car pour eux, il a été proche de la mort et il a exposé sa vie afin de compléter ce qui manquait à leur service envers moi.
Voilà, c'est verset 25 qui nous dit qui était ce frère. C'est Épaphrodite. Alors, il a copié l'exemple de son maître. Et par amour pour ses frères, il était prêt à faire quoi? À se donner la vie. À se donner la vie. Peut-être que pour la majorité d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Mais même aujourd'hui, il y a des gens, il y a des disciples qui sont prêts. Et je suis toujours touché, je veux vous avouer, par les frères et les sœurs qui maintenant, dans ce temps, se met leur vie en danger pour prêcher l'évangile, pour visiter les croyants dans un autre pays. C'est touchant toujours pour moi. Ils sont un exemple. Épaphrodite est un exemple, mais je suis content de dire que je connais des frères et des sœurs qui suivent le modèle du Seigneur Jésus. Jean, 1er chapitre de Jean, c'est un appel que Jean fait pour nous tous. Chapitre 3, verset 16, s'il vous plaît. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16.
Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous ne devons laisser nos vies pour les frères.
Voilà, c'est lui. C'est lui le modèle. Et il a pris le caractère, l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et puis il appelle. Maintenant, l'amour fraternel, le Seigneur nous dit, vous devez le remodeler parmi vous. Peut-être se laisser la vie, on peut comprendre comme ça. Au lieu de faire ce que je veux pendant 2 heures, avec mon temps libre. Au lieu de faire ça, je vais visiter peut-être une sœur ou un frère âgé qui ne peut venir à l'assemblée. Alors je laisse mon temps libre, je le sacrifie. Mais la motivation, ce n'est pas « je dois le faire ». C'est un choix libre d'amour. Le Seigneur m'a touché le cœur. Je veux suivre son exemple. Et je veux sacrifier quelque chose pour l'amour, pour un frère ou pour une sœur qui sont dans un état qui ne leur permet pas de rejouir de la communion fraternelle. Des choses simples, des choses simples. Comme ça, vont former en nous son caractère. Ok? Maintenant, question pour vous. Quelles sont nos ressources pour vivre une telle vie? Parce qu'une telle vie, peut-être que parfois, semblait impossible. Est-ce que nous avons des ressources pour vivre une vie, de suivre le Seigneur et de se donner la vie, d'aimer les frères et les sœurs? Quelles sont nos ressources? C'est bien parfois de nous rappeler. J'ai besoin de vos aides, de votre aide maintenant. Une ressource. Qu'est-ce que vous pensez?
Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Excellent. Notre ressource.
La prière.
Prière. Excellent. Une autre.
La parole.
La parole.
Super. La foi.
La foi. Qu'est-ce que nous avons par notre nouvelle naissance?
La vie de Dieu.
Une nature divine, nouvelle nature, qui est, je peux dire, énergisée par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. On lit un verset, le Saint-Esprit va nous toucher le cœur, on se rappelle d'une chose qu'on doit faire. Et on le fait avec choix. On le fait avec choix. Ce n'est pas une vie impossible. C'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas impossible, c'est la vie normale. Mais parfois, ça semble impossible, parce qu'on oublie que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, une nouvelle nature, et on a aussi un modèle. Alors, la vie chrétienne est merveilleuse et facile. Facile, c'est ça le mot. Mais je dois me préoccuper avec qui? Avec lui. Il est toujours devant moi, je fais les choses qu'il a fait. Mais de la manière, c'est ça le mot-clé, de la manière qu'il a fait. Et comme ça, notre caractère va se changer. Alors, voilà quelques ressources que vous avez déjà mentionnées, nature divine, Saint-Esprit, la parole. Nous avons les frères et les sœurs, qui peuvent nous encourager. Oui. C'est ça, je vois un ami qui manque une fois, deux fois. Et puis on dit parfois, ah, c'est son problème. C'est vrai. La vie chrétienne, c'est les problèmes des Grégoire sont mes problèmes. Et mes problèmes, c'est les problèmes des Grégoire. C'est ça. C'est le danger d'être assis très proche de moi. Mais c'est ça, on s'intéresse. C'est l'amour. C'est le Seigneur Jésus. Je m'intéresse. Il manque. Pourquoi? Oui. Et on va faire des choses comme ça. Voilà, Jean 13, oui, exemple exceptionnel du Seigneur Jésus. On lit vite là, oh, oui. C'est direct sur le parcours, quelqu'un qui veut lire, ou dans les Écritures, ça n'importe pas. Allez, vite, s'il vous plaît.
Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en saignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint.
Voilà, exemple exceptionnel. Quel est le modèle du monde dans Maître? Il est ici, il doit être servi. Oui? Et le Seigneur, son modèle, le vrai leader, celui qui sert les autres. Vous voyez Pierre de nouveau, quand il voit le Seigneur à ses pieds, il dit, Seigneur, jamais, tu ne peux pas. Dans sa tête, c'était la lutte. Mais toi, tu es le maître. Comment tu peux faire ça? Et c'est la beauté d'avoir le Seigneur comme un maître. C'est contre le courant du monde qui dit que le maître, c'est c'est au milieu toujours. Il doit recevoir toute attention, tout service, tout ça. Le Seigneur dit non. Celui de vous qui veut être le plus grand doit être quoi? Oui, exactement. C'est lui qui doit servir. Et voilà, le Seigneur est ici un modèle pour nous de se humilier, de servir avec amour les autres. C'est son modèle. Parfois, on a des problèmes entre nous. Julien l'a mentionné, il a dit, si vous avez des problèmes entre vous, vous savez la solution quand deux amis ne s'entendent plus? C'est un d'eux doit faire ça. Je veux suivre le Seigneur. Parce que d'habitude, si on est au même niveau, on continue à se disputer, et voilà. Je me mets ici. Il ne peut pas. Il n'y a personne à disputer. Mais je suis ici et je le sers. Amour. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre aussi. C'est ça l'amour. Mais le Seigneur le fait. C'est notre modèle. Et on doit se rappeler. C'est contre le courant du monde. Et c'est difficile parce que on vit dans le monde et cet exemple du leader qui est toujours servi, parfois nous influence. On doit revenir et voir que, voilà, un mal, c'est avoir l'esprit du Seigneur. C'est important ça. On continue. Troisième évangile, Luc. On lit vite ces deux passages. Luc, chapitre 5. Alors, on retient le mot, clé, pas seulement les actions du maître, mais aussi le caractère du maître. Et maintenant, vite, en faire, s'il vous plaît, chapitre 5, de 8 à 11, et puis de 25, 27 à 32, s'il vous plaît.
Et Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta au genou de Jésus, disant: Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire, de même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon: Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent.
Très bien. Et je veux aussi aller Luc 19. Luc 19, s'il vous plaît. Lire verset 29 et 30. Dans l'évangile de Luc, c'est que lui, le Seigneur, est le surveillant. Et c'est lui qui nous donne des tâches. Ok? Il nous donne des tâches. Et bien sûr, qu'ici la vie humaine nature veut toujours des tâches continuelles. Importantes. Mais c'est lui qui choisit. Oui? Voilà. Vous pensez, quelle tâche est ça? Tu m'envoies dans un village de venir avec un petit anneau. Ça, c'est un peu de mépris. Tu ne m'as pas envoyé d'amener un cheval blanc pour un roi, comme ça. Là, je marchais comme ça. Voilà quel cheval je dois amener. Mais tu viens avec un petit anneau comme ça. Mais c'est la tâche du Seigneur qu'il a donnée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Parenthèse. J'ai un père, un Christ. Il m'a raconté une histoire. Il avait votre âge, et puis il s'est fâché un peu, et il ne voulait plus venir aux réunions. Et un frère est venu pour le visiter. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a lu pour nous? Il a dit Brian, c'est ça son nom. Ouvre ton écriture. Il a dit où? Luc 19. Quel verset? 30. Il lit, et dans un autre évangile, le Seigneur dit encore un mot. Vous savez quel mot il dit en ce qui concerne l'anneau? Il dit « J'ai besoin de lui ». Et le frère lui dit « Brian, c'est toi l'anneau ». Vous savez le caractère d'un anneau? C'est toujours, il dit non, je ne veux pas. Et le frère vient, il dit, c'est toi. Il dit, moi? Oui. Ta forte volonté, t'es fâché contre les frères, tu ne viens plus aux réunions. Mais le Seigneur lui dit, voilà, il a besoin même d'un anneau comme toi. Important, si on veut être un bon disciple, ou disons un bon lévite. Vous savez, le lévite qui portait le témoignage dans le désert. Qu'est-ce que l'anneau a fait? Il a porté qui après? Le Seigneur. Et voilà comment le Seigneur peut employer. Je parlais de moi. Je ne suis pas un anneau, je suis un âne mature, volonté plus forte. Mais le Seigneur veut dire, je veux t'employer pour rendre un témoignage sur ma personne. Et voilà parce que le Seigneur emploie n'importe qui pour les tâches qu'il choisit. Et s'il me donne une tâche, je dois le faire avec joie. Je ne dois pas dire, vous savez, Pierre, de nouveau, évangile de Jean, le Seigneur lui dit, suis-moi. Qu'est-ce que Pierre fait physiquement? Il se tourne. Mais avec Jean, avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ce n'est pas ton problème. Parfois on dit, le Seigneur me donne une tâche. Mais Seigneur, pourquoi tu lui as donné une tâche importante, exceptionnelle, et moi, une petite tâche? Non, c'est de l'argent. Alors ce n'est pas important la tâche, mais c'est important que c'est lui le surveillant qui dit, fais ça. Puis, autre disciple, il dit, trouvez la chambre. Oui, préparez la chambre pour les Pâques. Suivez l'homme avec la vase d'eau. Tâche humble, modeste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de commentaires, ils sont allés pour préparer la chambre. Tout c'est important à cause de la personne qui nous donne la tâche. Ok? On continue. Parfois, et je reviens à Luc 5, on doit se rappeler que parfois, il y a du sacrifice qu'on doit faire. Sacrifice. On doit pas être effrayé quand on entend ce mot sacrifice. Parce que nous sommes dans les plus grandes bénédictions. Quel est le motif principal qui nous a donné toutes ces bénédictions? C'est le sacrifice du Seigneur Jésus. Ok? Notre Maître a sacrifié tout, a donné sa vie pour nous. Voilà Lévi. Vous savez qu'est-ce qu'il était Lévi? Il était quoi? Impôt, taxe, position, argent. Seigneur vient. C'est impressionnant. Comme le Seigneur lui dit, oui. Verset 27. Assis au bureau de recette, il lui dit, suis-moi. Et quittant tout, il se leva et le suit. Pas d'explication. L'appel. Je pense qu'il y a une sorte de pouvoir, de charme même, dans cet appel. Je ne sais pas, mais je pense. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que Lévi a dû sacrifier? On passe à même. Qu'est-ce qu'il a dû sacrifier? Aidez-moi.
Confort.
Confort. Problème numéro 1.
La carrière.
Carrière. Aussi numéro 1. Quoi d'autre?
La réputation.
Réputation. Il a laissé une position importante. Quoi d'autre?
L'argent qui venait par la paix.
L'argent? Oui. Pour nous, peut-être, c'est des choses différentes. Mais on ne doit pas, quand on entend le mot sacrifice, je dois vous avouer quelque chose en ce qui concerne le confort. J'ai eu une soirée avec 5 jeunes frères de Roumanie. Et j'ai voulu les encourager parce qu'ils approchent 30 ans et ils sont seuls, d'accord? Et j'ai dit, honnêtement, dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas former une famille? Où est le problème? Ils ont été sincères immédiatement. Tous les 5, prennent le motif, ils ont dit ça. Confort. Je ne veux pas renoncer à mon confort. Parce que j'ai dit, mais comment je faisais l'ignorant? Mais expliquez-moi un peu. Qu'est-ce que vous... C'est quoi ça, confort? Je ne comprends pas. Et bien sûr qu'ils se sont rendus compte. Mais ils étaient très ouverts. Ils ont dit, parce que je dois être responsable. J'ai dit, oui. Mais tu sais, un autre me dit, je ne veux pas revenir à la maison le soir et quelqu'un me demandait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Vraiment? Voilà. Obéissance, amour, mais parfois, on doit se rendre compte qu'on doit sacrifier. On doit sacrifier pour être un bon esprit. Je suis sûr que vous qui êtes dans la salle maintenant, vous êtes des bons étudiants. Vous faites des sacrifices pour l'école, pour le travail. Quand on arrive aux choses spirituelles, soudainement, pas le même désir. Oh non, 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 non. Ça, c'est interdit de rapprocher la relation avec le Seigneur. Oui, parfois, on doit sacrifier. Mais on le fait avec l'amour. On le fait avec liberté. Pourquoi? Parce que de nouveau, je regarde le Seigneur Jésus. Et il me donne la force, il me donne l'énergie, il me donne le choix. Ce n'est pas une vie, oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai donné 2 heures de mon temps, quel sacrifice? Je m'excuse, Guillaume. Non? Mais voilà, Lévi a laissé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Après, il a commencé, il a dit, j'ai pris la plus bonne décision de ma vie chrétienne. Parti. Tous mes collègues, et pas seulement, tous les voisins, grand festin. Il dit, quoi, tu te maries? Pourquoi tu fais ça? Non, je veux que vous rencontrez mon maître. Grand festin. Tout le monde, meilleure nourriture, peut-être meilleur vin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sacrifier tout. Pourquoi? Parce qu'il aime le Seigneur. Dans chaque vrai disciple, c'est la joie que tu veux partager avec les autres. Vous avez déjà un maître maintenant. Peut-être que dans votre travail, vous dites, oh, quel maître, j'en ai marre de lui. Ou vous avez des profs à l'école. Le meilleur maître du monde, le plus bon, c'est le Seigneur Jésus. Le plus bon. Mais quand on le suit, on a la joie de partager. Partager avec les autres. Venez connaître mon maître. Et on va, maintenant, j'ai écrit là et je veux lire. On va découvrir que ce sacrifice devient miracle, bénédiction. Mais seulement si je le fais, je peux vous parler jusque demain. Mais vous devez goûter. que quand vous faites un sacrifice pour le Seigneur, ça va devenir une bénédiction. Les choses auxquelles nous renonçons peuvent être très chères ou chères. Nous nous rendons compte qu'il nous empêchait de profiter pleinement de quelque chose du Seigneur et nous empêchait de servir le Seigneur efficacement. Je veux lire maintenant, pas moi, un jeune frère. On ouvre vite Jérémie 15 et je veux vous dire pourquoi ce verset. Jérémie 15, verset 19.
C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux.
Voilà. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est pas précieux. Je veux vous encourager de faire, pas maintenant, sérieusement, peut-être prendre un feuille de papier et lister dans vos vies maintenant des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui ne sont pas précieuses. J'ai déjà parlé avec un ami, je peux dire un ami. Dans ma vie, je vais vous donner un exemple. Il y avait 2 heures chaque lundi où je jouais au foot à l'école avec les parents et les collègues. Le foot pour moi c'était un grand problème, idole qui m'a tenu loin du Seigneur beaucoup d'années. Et un jour le Seigneur a commencé à toucher ce temps-là. Et il a dû employer une méthode pas classique, douloureuse pour moi. Et puis j'ai décidé, à cause de cette raison, j'ai décidé, ok Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, je vais renoncer. Je ne comprends pas. J'étais un peu agité, même fâché. Pourquoi je ne comprends pas? 2 heures par semaine, c'est trop. J'étais en lutte avec le Seigneur. Et puis, mais j'ai quitté. J'ai dit, je ne viens plus. Mes collègues étaient fâchés, spécialement un d'eux qui est venu et dit, après 3 semaines, il me dit, voilà, tu vois ce que tu as fait? Je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis arrêté de venir. Quoi? Où est le problème? Et il me dit, personne ne vient plus. Et il me dit, c'était toi le cœur. Je n'ai jamais rendu compte que moi je suis. Voilà, ce n'était pas une action mauvaise, quelque chose. Mais il m'a dit, c'était toi le cœur, t'es disparu, la chose est tombée. Et puis je continue à prier, Seigneur, peut-être, voilà, mais je peux rendre témoignage pour toi, là. Mais j'étais décidé, je comprends, Seigneur, tu ne veux pas ça. Et puis la même personne vient, 3 semaines après, il dit, Emma, on ne joue pas au foot maintenant. On veut t'inviter à jouer au hockey. Je dois leur dire, j'ai renoncé au foot à cause des... Il y a des boutons. Des boutons douloureux qui sortaient chaque fois que je revenais au football. J'ai eu 7 ou 8. Ça fait de la peine. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas le foot, c'est le hockey, je peux aller. J'y vais. Mercredi après-midi, on joue. Bouton sur le pied gauche. 5 jours, et j'étais comme ça. J'ai compris. C'était comme ça pour moi. Mais je compris et je remercie le Seigneur de son amour. Et alors, un matin, je suis dans le livre de Jérémie, je lis. Puis mon copain de l'école, il revient parfois me dire, Emma, qu'est-ce que tu penses? On refait le foot. Et un matin, je lis Jérémie 15. Et je lis ici, si tu te retournes, où? Là. Pour moi, c'est Jérémie a écrit pour moi. Si tu te retournes, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi. Et maintenant, c'est la provocation. Tu dois séparer. Maintenant, il me donne le raison. Tes 2 heures, je parle ça pour moi, tes 2 heures de foot n'étaient pas péché. Mais il t'empêche de passer du temps avec moi. Et je veux te donner une tâche pas importante de faire pour moi. Et important maintenant, parce qu'on va entrer en Jean immédiatement, il y avait une partie de mon cœur, des affections, qui n'étaient pas pour le Seigneur. Une petite partie dans mon cœur qui était là pour mon passion. Et le Seigneur m'a dit, je veux ça. Maintenant, je comprends pourquoi. Il me dit, et puis il me dit, le Seigneur me dit, qu'il revient vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. De ce moment-là, fini, j'ai compris. Ça a fait du mal, hein, pour moi. Je remercie le Seigneur. Mais puis, vous savez, la conséquence. Les Écritures ont commencé à avoir un autre goût. Un autre goût. Je m'avais réjoui auparavant, mais maintenant je lis et je dis, oh, quelle beauté! Pourquoi? Parce que le petit coin, le Kaliningrad de la Russie dans mon cœur, est disparu. Et la relation avec le Seigneur est différente. Vous savez, parfois, on n'a pas envie de lire les Écritures. Et je sais que Jacques, et pas seulement Jacques, et Pierre nous dit pourquoi on ne réjouit pas dans les Écritures. Parce que dans nos cœurs, il y a des choses qu'on doit chasser pour que le Saint-Esprit nous donne un fraîche goût des Écritures. Je veux vous provoquer à penser devant le Seigneur s'il y a dans votre cœur un petit territoire, pas grand comme dans la mienne, qui appartient à votre passion, à votre je ne sais pas quoi. Cherchez-vous devant le Seigneur, demandez-le, Seigneur Jésus, est-ce que c'est une chose qui n'est pas vraiment précieuse et que je dois quitter pour que tu mettes là une autre chose précieuse. Après quelques mois, je me suis rendu compte pourquoi il a dit les 2 heures, je les veux pour moi. Il a le droit pour moi. Mais je ne regrette jamais ça. Parce que le sacrifice, pour moi, ce n'était pas vraiment un sacrifice. Je ne l'ai pas fait volontairement. C'est pour ça que j'ai dit que je suis l'animateur. Hein. Mais le Seigneur m'a béni après. Il ne veut pas qu'on souffre, mais il est. J'aimais tant la cantique que vous avez chantée. On ne peut pas servir 2 maîtres, 2 heures par semaine, pause. Le Seigneur Jésus, pause. C'est mon maître de foot. Et puis, voilà, pour toi maintenant. Non, il est. On ne peut pas faire ça. Oui. Et alors, Luc veut nous dire ça. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut qu'on le suit avec fidélité. Il veut mettre dans nos vies des choses précieuses, des bénédictions spirituelles. Et maintenant, la dernière évangile, Jean. Je trouve ça. Quelle est la ligne de Jean? ce n'est pas l'autorité de l'enseignant, Matthieu, oui. Ce n'est pas l'exemple de Marc, ni même le rôle de surveillant de Luc. Mais maintenant, c'est très important. La gloire, la beauté de la personne. C'est ça. S'il vous plaît, vite, Jean, chapitre 1, versets 35 à 39. Alors, en retenant Jean, il faut qu'on s'attache à la personne, à la gloire de la personne. Jean, chapitre 1, versets 35 à 39, s'il vous plaît. On est presque là. Vous êtes merveilleux.
Je renvoie encore Jean se prend là et deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent parler et suivirent Jésus. Et Jésus se retournant et voyant qu'il le suivait, que cherchez-vous? Et ils lui dirent, va, ce qui est interprété, c'est le premier. Où demeures-tu?
Voilà. Alors, peut-être que c'est l'aspect plus difficile d'être un disciple. Et j'ai commencé. Ça, il s'agit de la température de mes affections envers le Seigneur Jésus. Imaginez Jean, le baptiseur, là, avec les disciples, et il dit, il ne parle pas avec eux. Vous avez remarqué? Le lendemain des morts, encore Jean s'étime là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, et le Saint-Esprit n'était pas. Il leur dit, non. C'est une exclamation. Jean voit le Seigneur, il est captivé, il est enchanté, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et eux, ils voient dans le cœur de Jean une personne extrêmement spéciale pour lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Je désire ardemment pour moi cette chose. De encourager les jeunes, les frères et les sœurs envers le Seigneur Jésus. Et voilà qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à suivre le Seigneur et un aspect très important, le Seigneur leur demande une question. Il dit, que cherchez-vous? Il ne demande pas qui cherchez. Il dit, que cherchez-vous? Test. Que cherchez-vous? Et leur réponse, Rabbi, où demeures-tu? Ils disent, on ne cherche pas une chose. On veut passer du temps avec toi. On veut te connaître. On veut s'approcher de toi. Et c'est vraiment encourageant de voir. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Imaginez-vous, un jour entier avec le Seigneur Jésus. Il lui pose des questions sur toutes choses. Et quelle joie d'être là avec lui et de l'entendre. Et je veux vous poser cette question. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je m'approche maintenant, vie pratique. Oui? Parce qu'eux, ils étaient physiquement avec le Seigneur. On n'a pas physiquement cette merveilleuse occasion, mais question importante. Comment je commence la journée? Si le premier objet que je touche, que je cherche, c'est mon tube d'oxygène, problème. Grave problème. C'est ça mon tube d'oxygène. Je dois commencer avec ça. Et je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Hier soir, oui, bien sûr, notre pénible excuse. Je n'ai pas le temps. Ça me fait mal. Parce que ce n'est pas les jeunes seulement. Je parlais avec un frère, il m'a dit, Emma, tu sais, mon temps silencieux avec le Seigneur, je conduis dans la voiture une heure pour arriver au travail et j'écoute des sermons. Et je dis, c'est génial, je t'encourage. Au moins, tu n'écoutes pas les misérables nouvelles du monde. Mais puis, il continue, il dit, ce n'est pas un temps de qualité avec le Seigneur. Un autre me dit, on parle de lire les Écritures, et il dit, il se sent pas bien à l'aise, il dit, tu sais qu'est-ce que je fais? J'écoute la Bible, et je fais le vélo jusqu'au travail. Ça compte? Je ne suis pas ton juge, hein. Je ne suis pas ton juge. Mais je ne comprends pas ça. On parle des Écritures et des personnes se sentent brusquement agitées, accusées. Je dis, qu'est-ce que tu penses? C'est qualité? Et il était sincère. Pas vraiment. Mais c'est bon, au moins tu écoutes les Écritures. Mais je veux demander, est-ce que vous pensez que les deux, qui sont Jean et Déborah. L'autre, Jean est le frère de Pierre, non? C'est André.
André.
Est-ce qu'ils ont passé un temps de qualité? Est-ce qu'ils étaient concentrés sur le Seigneur? Est-ce qu'ils faisaient attention à ses paroles? Je veux vous encourager. Si pour les personnes dans la salle qui n'ont pas autant de qualités comme ça, je veux vous encourager de commencer avec 10 minutes. 10 minutes de lire, mais peut-être 2, 3, 4, 5, 10 versets. Peut-être prendre un cahier et écrire deux pensées là. Commencez avec 10 minutes. Mais laissez prier si votre appétit grandit. Augmentez le temps. Mais je dois vous avertir. Vous devez organiser bien, pas le matin. C'est pas le matin, parce que tout le monde dit « Oh, j'ai pas le temps le matin. » Et je dis « À quelle heure tu vas au lit ?» Mon cher ami adolescent de Romanie. Et je demande ça à mes neveux et mes nièces. Ils disent « Oncle, moi, quelle question tu poses ?» Bien sûr, à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Mais bien sûr que tu jamais arriveras de lire les Écritures parce que tu n'as pas l'énergie. On doit organiser, pas le matin, on doit organiser quoi? La soirée. Si je vais au lit à des heures qui ne sont pas appropriées, bien sûr que je n'aurai pas l'énergie. Et l'ennemi de mon homme va agglomérer la soirée. Ah non. Maintenant, j'ai envie de voir un film. Je ne comprends pas ce désir, mais ça va. Mais ça, j'ai 2 heures là, 3 heures. Et puis le matin, oh, je suis si fatigué, je dors plus. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pas la porte. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Écritures? Et puis on se demande, mais moi, ce frère, d'où il parle des. Non, on doit avoir un temps de qualité avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est au moment ça, mon cœur sera attaché à lui, ses plaisirs, ses bontés. Mais je dois organiser ma vie d'une telle manière. Pourquoi? Parce que c'est précieux pour moi d'être avec lui. Il est là pour me rencontrer. Je veux, en conclusion, Cantique des Cantiques, s'il vous plaît. Peut-être que la jeune fille commence dans le coin avec le mari. Non. Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux le répéter après. Dans une autre session de 3 heures. Alors, chapitre 5. Verset 2. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Pour les frères dans la salle qui sont déjà mariés. Verset 2, c'est un exemple excellent qu'on peut parler avec nos femmes. C'est exceptionnel. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles les gouttes de la nuit. Et voilà la réponse. Verset 3. Alors, lui, c'est là. Elle est dans le lit. Et voilà sa réponse. Son désir pour la communion est là, pour se rencontrer. Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis dépouillé de ma tunique. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Le problème, c'est que ses affections étaient froides envers le bien-aimé. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un de nous. Le Seigneur désire ce temps de communion. Et on dit, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Même langage ici. Et vous voyez, le Seigneur commence, il ne peut pas nous laisser comme ça. Et si vous lisez à la maison, si vous pouvez, faites-le, pour voir comment le Seigneur ici touche le cœur de cette personne. Et en verset, on voit le résultat. Je veux lire verset 9. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé? Oh, la plus belle parmi les femmes. Question, qu'est-ce qu'il y a avec ton bien-aimé si spécial? Auparavant, elle ne voulait pas la communion, elle était endormie. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous as joint ainsi? Et voilà le verset 10, elle commence. Mon bien-aimé est blanc et vermé. Un porte-bannière entre 10 000. Sa tête est un or très fin. Ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Ses yeux, comme des colombes près du ruisseau d'eau, baignés dans le lait, bien enchâssés. Ses joues, comme des parterres d'aromates, des corbeilles, des fleurs parfumées. Ses lèvres, des lilies, distillant une myrrhe limpide. Ses mains des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites, son ventre, un ivoire poli couvert de saphir. Et elle continue, et voilà, verset 16, elle dit, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Est-ce qu'on peut décrire le Seigneur comme ça? En détail. Avec passion, avec amour. C'est ça, si quelqu'un me donne un papier, Emma a écrit, est-ce que je suis capable? Mais je veux dire, est-ce que tu serais capable? Ça, il veut ça. Il veut qu'on passe du temps avec lui. Alors, petite révision. Matthieu, il est roi, je suis sujet. Obligé à écouter la parole. Marc, je dois imiter mon maître. Son caractère doit devenir mon caractère. Son moyen de travail devient mon moyen de travail. Luc, il est le surveillant. Il peut me donner n'importe quelle tâche et je dois le faire avec joie. Et Jean, c'est toute une autre chose. C'est je suis attiré, je suis captivé par sa personne. Je passe du temps avec lui. Parce que vous savez, si je fais ça, être un disciple, c'est la plus grande joie, la plus grande bénédiction, je peux dire honneur qu'on a sur la terre. D'avoir un tel maître qu'on aime, qu'on suit et qu'on veut voir très tôt. Je vous en prie de réfléchir et spécialement à toutes les choses, mais spécialement à ce que Jean nous dit. Quelles sont mes affections envers la personne du Seigneur Jésus? Combien de temps je passe avec lui? Combien de temps je passe avec lui? Tant de qualité. Devant les Écritures, en priant, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir ta beauté. Et de là, tout va s'arranger. Je vous promets. Mais je vous promets parce que c'est les Écritures qui le font. Que le Seigneur nous donne le courage, l'envie, le désir de suivre le Seigneur Jésus. D'être fidèle au Seigneur Jésus. Parce que très tôt, on sera devant lui. Est-ce que tu attends ce moment de voir son visage? C'est la seule personne qu'on aime sans le voir. Imaginez quel miracle. Je ne l'ai jamais vu. Mais je veux le voir. La première chose, très tôt, peut-être ce soir, on va le voir. Et on entend sa voix de dire, bien, disciple excellent, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur nous donne le désir, la grâce, il nous donne tout pour le suivre et d'être des vrais disciples du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. J'étais presque en pas.
Je pense que c'est bon.
Merci.
Par contre, je te prie de rester là.
Quelle dangereuse proposition. Vous savez, c'est qui ici? C'est le Seigneur. Il commence son jour comme ça, dépendant de son Père, en communion avec lui. Toujours. Je suggère cette réponse. Julian a oublié de dire question simple. Simple. Compliqué pour lui.
Il y a tout le monde ou ça doit passer encore?
Ouais. On n'a pas le temps pour Tom. Merci d'employer mon exemple. Comment savoir si quelque chose qu'on aime est un Kaliningrad? Ou si on peut continuer à le faire pour le Seigneur? Question simple. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui demande comment je peux me rendre compte que ce que je fais, que j'aime faire, c'est quelque chose qui m'empêche dans ma relation avec le Seigneur, ou si on peut continuer à le faire pour le Seigneur. Alors, si la chose s'est faite avec cette motivation, je le fais pour le Seigneur, c'est simple. C'est pas un Kaliningrad. Les choses qui appartiennent à Kaliningrad, c'est les choses que je fais pour mon plaisir. C'est pour moi. C'est une grande différence. Si je le fais pour le Seigneur, s'il te plaît, continue. Que le Seigneur te bénisse. Mais si je le fais pour toi, je ne veux pas dire que maintenant on doit... Non. On doit prier. On doit prier. Je ne veux pas dire maintenant qu'on ne doit pas sortir, on ne doit pas faire du ci, on ne doit pas... Non, ce n'est pas ça. C'est si le Seigneur touche quelque chose dans ma vie qui consomme régulièrement mon temps, mon énergie, peut-être mon argent, et ça ne m'édifie pas. Je posais cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui t'édifie? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait te rapprocher du Seigneur, te fait le connaître mieux? Je dirais comme ça. Mais si tu as déjà dit que tu le fais pour lui, impeccable. C'est très bien. Continue s'il te plaît. Et s'il y a, bien sûr, il y a des choses, le Seigneur veut qu'on se réjouit de la nature, des amis, c'est pas ces choses-là, oui, mais quand il y a quelqu'un, quand il y a quelque chose qui m'empêche dans ma communion avec lui, oui, quelque chose qui m'empêche dans ma communion avec lui, c'est ça, je dois le demander. Oui, je sais, et même si je dis, tu dois faire ça, ça, ça et ça, est-ce que tu le fais? Demande au Seigneur, je veux te dire, va devant lui, présente la chose, et il va te répondre. Il va te répondre. Mais si c'est pour lui, c'est excellent. Je continue. S'il y a des frères qui vont rajouter, soyez libres. On va poursuivre. Courte. Je ne sais pas si on a le temps, mais je veux lire la question. Pourquoi les femmes doivent porter les voiles? Ça, c'est le titre d'une conférence. Courtement, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 11. Je veux dire simplement ça, sans entrer, pour montrer l'ordre de la création que Paul nous a laissé écrite dans le Nouveau Testament. Et comme ça, je vous encourage de lire, de relire la première partie du chapitre 11 du 1er Épître aux Corinthiens, de verset 2 à 16. Mais il y a une ordre en création. Dieu, Christ comme homme, important, homme, femme. Et Paul dit, ces différences entre homme et femme doivent se voir. Homme, tête pas couverte. Femme, tête couverte. Quand? Paul est clair là. Quand une femme prie et elle prophétise, elle doit se couvrir la tête. Quand un homme fait ça, il doit le faire avec ne pas mettre quelque chose sur sa tête. Simplement, courtement. Une réponse détaillée dans une suivante, une future conférence. Mais c'est bien de poser des questions comme ça. Il y a aussi des commentaires, je vous encourage. Oui. On n'a pas le temps. Là, j'ai fait une réunion avec cette question, carpe. Mais c'était intéressant, il y avait des débats, il y avait de la colère parfois. Mais au moins, la réunion suivante, on était dans une colonie, il y a eu du changement. Parce que oui, c'est bien, c'est important de savoir pourquoi on fait des choses comme ça. Et de voir dans les écritures. Et c'est un, je veux dire aussi que c'est un attaque sur la nouvelle génération. De dire, ce que les parents ont fait, c'est démodé, c'est ancien, c'est... Non, on ne commence pas comme ça. On doit chercher les écritures. Et avoir nos propres convictions de ce qu'eux ont fait. Mais on doit passer par des exercices personnels.
Est-ce qu'il y a des questions intéressantes ? Moi, j'en aurais une. Oui. Si on a cette idée que c'est très compliqué d'être un disciple, on a vu beaucoup de conditions.
Oui. Pas encore les conditions.
Ouais. On a vu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui sont des exigences. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est tétanisé, qui dit « je ne peux pas commencer une chose comme ça, c'est trop compliqué » ?
Qu'est-ce que je dirais à une personne qui... que cet appel semble trop difficile ? Ouais. Je vais donner un exemple de l'évangile de Jean. Un disciple sous-marin, Joseph d'Arimathée. Pour lui, une grande période de sa vie, être un disciple publiquement du Seigneur Jésus, c'était très difficile. Mais il y a eu une chose qui a changé complètement son attitude. À lui, à Nicodème aussi. Et je pense que qu'est-ce qui a aidé Joseph d'Arimathée de venir en public et de se mettre à côté du Seigneur, de s'identifier avec le Seigneur. Je pense qu'il a été à la croix. Et il a regardé le Seigneur là. Les souffrances, même s'il n'a pas vu les trois heures de ténèbres, mais je pense qu'il a passé du temps à méditer aux souffrances du Seigneur Jésus pour lui. Et ça lui a donné le courage. L'amour de dire si elle a fait ça pour moi, je veux commencer. C'est pas facile, mais quand on le regarde dans ses souffrances, dans son amour, je pense qu'on doit visiter Golgotha chaque semaine. On le fait, j'espère, dimanche matin. Mais être là devant lui et le regarder comme il est moqué, battu. Tout ce qu'il a souffert. Et aussi les souffrances qu'on ne peut pas comprendre dans les trois heures de ténèbres. Et son motivation, oui, c'est de glorifier le Père ici, mais aussi de l'amour pour moi. Ça devient facile après de commencer, de dire Seigneur, tu me donnes la grâce, parce que je comprends maintenant combien tu m'aimes. Et je veux te suivre. Même comme un faible disciple, mais je veux m'identifier avec toi. Une personne glorieuse. Alors je recommande de regarder le Seigneur sur la croix. Parce que Joseph a eu le courage d'aller chez Pilate et de dire à tout le monde, je suis prêt à renoncer à tout. Je m'identifie avec lui. Nous ne comprenons pas bien ce que ça veut dire. Mais pour lui, c'était le jour où il a décidé. Je m'arrête d'être un disciple caché. Je viens en public. Pourquoi tu as fait ça, Joseph? Il m'aime. Il donnera l'énergie. C'est l'amour. C'est l'amour.
Donc un disciple caché, mais qui finalement a pris le courage. C'est un progrès dans sa vie. Mais il a compris son appel, donc il a commencé tout d'abord en cachette avec le Seigneur. Il faut faire le premier pas.
Je m'excuse. Et c'est pour ça qu'on est ensemble comme ça. Pour s'encourager. Pour s'encourager.
D'autres questions?
Merci beaucoup.
Vous avez encore un petit instant pour peut-être réfléchir. En tout cas, le temps passe vite. Je prie le frère Emmanuel juste brièvement de peut-être d'apporter un peu plus d'éclaircissement, de faire la relation entre le fait d'être par rapport aux disciples, avoir l'obligation, être obligé, le mot qu'on risque de dépasser, on peut dire, voilà, il avait dit le dictionnaire, c'est un mot qu'on n'aime pas trop employer dans le langage actuel, c'est pas dans la culture suisse, et même pas dans la culture européenne, obligé, donc, peut-être qu'il nous explique un peu plus, et faire cette relation entre être obligé dans le sens du disciple, et en fait, on se marque dans l'évangile de Matthieu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même. Donc aussi ce libre arbitre, le choix de soi, soi-même.
C'est ça la question, c'est pas votre question. Merci. Oui, ce que je voulais dire, Matthieu, de nouveau, on doit comprendre que ce n'est pas une image complète seulement si je regarde tous les quatre évangiles. Mais le message central de Matthieu, c'est que lui, c'est le roi. Si on est à Buckingham, oui, en Angleterre, parce que vous n'avez pas, je pense, oui.
Si, on est malade,
non. Imaginez, vous êtes dans le château de roi de l'Angleterre, oui, et vous êtes là comme sujet, oui, et il dit, amène-moi une tasse de thé. Est-ce que vous êtes obligé à l'amener? C'est ça la question. Si vous êtes dans cette position de sujet, et il est le roi. C'est ça, c'est important de... Mais il n'est pas un roi, il est le plus merveilleux roi du monde. Je suis là, et je suis enchanté de faire ce qu'il me fait. Mais on doit chasser, c'est ce que je vous dis, on doit chasser la pensée qui dit être un disciple, c'est un choix. Je peux choisir et je peux rejeter. Non, on ne peut pas. C'est un appel avec force divine qui vient, le sang du Seigneur Jésus. Ok? On chante, on rend grâce pour le sang qui a été le prix pour nos péchés. Oui, c'est vrai. Le même prix m'a mis dans la propriété du Seigneur 100%. J'appartiens pas à moi. Je suis sa propriété. Et je dois rendre grâce au Seigneur. Parce que parfois, on a cette idée, auparavant, vous savez, vos amis qui ne sont pas chrétiens, ils disent, moi, je suis mon maître, les pauvres. Satan est leur maître. Mais puis, on reçoit le Seigneur, hein, et il y a une idée, ah, j'ai échappé le mauvais maître, et maintenant, c'est moi le maître. Non, c'est le Seigneur. Le prix qu'il a payé me met directement dans la propriété du Seigneur Jésus. Et ça ne doit pas m'effrayer. Il est le meilleur roi du monde, le meilleur maître. Alors, le pensée de obliger, c'est on ne peut pas refuser la paix. C'est ça, oui. Et oui, c'est ça, Pierre, tu as mentionné, renoncer à soi. C'est la plus difficile chose et je veux illustrer. Imaginez la vie chrétienne en voiture. Et maintenant, je vous pose une question. Où est le Seigneur Jésus dans la voiture de votre vie? Je vous donne trois options. À côté de vous. Derrière vous. À côté de vous. Derrière vous. Et il y a aussi la troisième option, honteuse. Donc, coffre. Oui, il y a des personnes qui disent, je suis un disciple. Ils sauvent le Seigneur seulement le dimanche. Et puis la vie commence dans le coffre. C'est triste. Quelle est la vraie position que le Seigneur a déjà dans nos vies? Ce n'est pas à droite, ce n'est pas derrière, ce n'est pas le coffre. C'est au volant. Mais c'est difficile, et c'est ça, renoncer à soi, c'est j'ouvre la portière, je descends, et je dis, Seigneur Jésus, c'est à toi de conduire. Et je suis béni d'être à côté de toi, et de faire ce que tu veux. Et la question se pose comme ça, où est-ce qu'il dans ta voiture? Où est-ce qu'il dans ma voiture? C'est ça. Et difficile dans le même temps. Et n'hésitez pas à lui donner le volant. La vraie vie commence avec lui là. Même comme chrétien, la vraie vie est là. avec lui là, en lui donnant, je lui donne pas, je ne donne pas la position, il l'a déjà, il est glorifié comme roi, comme Seigneur. Ce n'est pas moi qui le fais, Seigneur. Je me mets dans ma position et je le glorifie dans ma main. Et puis ça aura de l'impact autour de nous.
Je peux dire quelque chose?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il pourrait en même temps conduire, être à côté et partout pour nous protéger, non?
Non. Quand il est au volant, sur un terre parfaite. Il sait le chemin, meilleur chauffeur, meilleur Seigneur.
Merci.
Merci.
On espère avoir encore des questions, mais on va discuter de quelle façon peut-être partager. En tout cas, on pourrait voir dans une autre session. Je vous propose de penser un cantique, proposer quelque chose, chanter ensemble quelques cantiques et par la suite finir par une prière et quelques informations supplémentaires. Donc, quelques cantiques, si vous avez à